le sujet qu'on va traiter ce matin. J'espère que, malgré les apparences peut-être tristes en partie du sujet que je vais traiter ce matin, j'espère que vous allez tirer des principes ou des vérités éternelles qui vont vous toucher. Alors, je vais prier et ensuite on va aller dans l'enseignement de ce matin. Seigneur Dieu, on veut te remercier parce que dès la création du monde, tu avais déjà pensé à un plan pour nous racheter. Parce que tu savais, Seigneur Dieu, qu'on allait être rebelle à ta personne. Seigneur Dieu, on veut te remercier parce que tu as prévu un plan de secours pour nos vies qui vont dans n'importe quelle direction sans toi. Seigneur, on ne s'en rend pas compte tant qu'on ne te connaît pas, mais on est perdu sans toi. Seigneur, je te prie que ce matin, on puisse redécouvrir cette vérité-là de s'équiper, Seigneur, de la même vision que tu as eue dans la perspective de la souffrance que tu es venu sur la terre, que nous aussi, on a une perspective sur parfois les choses, les obstacles de la vie, les souffrances qu'on rencontre, que ce soit un moyen pour aller de plus en plus vers toi aussi. Amen. Alors, en fait, j'ai déjà un peu introduit dans ma prière l'idée du sujet de ce matin, mais Noël, pour la plupart des gens, en fait, pour la plupart des gens, je sais que pour certains, ce n'est pas le cas, mais pour la plupart des gens, on voit ça comme un moment de réjouissance. En fait, c'est ce qu'on voudrait nous vendre. Hein? Si on regarde la publicité, si on se fie à la publicité partout autour de nous, si on se fie, on se fait préparer au moins un mois à l'avance avec la publicité sur Noël, et on va être plus heureux si on fait ça, on va être plus heureux si on donne ça, on va être plus heureux si on achète ça, si on reçoit ça. Et on veut nous vendre un moment de réjouissance. Parce qu'on veut nous le vendre. Faut pas croire que les gens qui font des publicités à la télévision font ça pour notre bien. En fait, ils font ça pour nous vendre des biens. Et ces gens-là nous plantent dans l'esprit qu'on devrait vivre un moment de réjouissance au moment des fêtes. Ça devrait être un moment de plein de festivité et tout ça. Mais et même, on va aller jusqu'à pour nous vendre, je pense qu'on se pervertit rendu là, nous vendre l'idée que Noël, c'est une fête de l'amour, alors qu'on veut d'une main vous dire que c'est la fête de l'amour et de l'autre main, on vous dit, c'est ben viens acheter mes produits puis tu vas être heureux. Ce qui est, d'après moi, non pas paradoxal, mais vraiment opposé l'un à l'autre nécessairement. On veut aussi dire que c'est une fête pour les enfants, c'est la fête des cadeaux, c'est la fête de la fraternité. Il y a beaucoup de messages qu'on veut mettre positifs, où on veut nous faire croire que c'est joyeux Noël. Mais moi, je vais vous amener, en tout cas, je vais essayer de vous amener à une autre perspective. D'abord, de prendre la perspective que Dieu a eue, ou que Jésus-Christ a eue dans ce qu'il a fait en venant sur la terre pour Noël, ce que nous, on appelle Noël aujourd'hui, ce qui n'était pas évidemment Noël à l'époque où il est arrivé. Noël, pour Jésus, c'était une appréhension d'une vie de souffrance. Jésus, lorsqu'il est arrivé dans cette perspective-là, il s'est envenu sur la terre dans son plan. Il ne s'est pas envenu avec « Hey, ça va être la fête, Noël ». Pour Jésus, Noël, ce n'est pas la fête. Jésus a une perspective de s'incarner dans la peau d'un homme et de venir prendre place dans les limites d'une créature plutôt que d'être le créateur. Celui qui a créé l'univers prend place dans un corps limité d'un homme. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble ce matin. Et comment on peut trouver une perspective sur la souffrance et une explication peut-être aussi à la souffrance. Alors, je vous invite à tourner, peut-être que vous êtes encore dans le texte de ce matin je l'ai appelé Dominique. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas parce que je ne te connais pas depuis longtemps. Pour vous dire, de toute façon, j'ai mêlé le nom de ma sœur et de ma femme toute la fin de semaine, alors c'est pas... faut pas que tu t'en fasses, Danny. Et j'allais t'appeler encore Dominique. Alors, Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 8 pour ce matin, qui est le texte de base sur lequel on va bâtir cette méditation. J'aime mieux appeler méditation ce matin, cette réflexion-là sur les perspectives de la souffrance de Jésus-Christ et comment ça peut nous affecter dans nos vies. Alors, ça dit ceci. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il y a quelques mots qui me frappent dans cette idée-là, dans cette perspective-là, parce qu'on parle évidemment de la naissance de Jésus-Christ ici. Hein? Il s'est dépouillé. Quand il a pris la forme d'un serviteur, il va jusqu'à la croix dans le texte, mais à la base, la naissance même est annoncée ici, est décrite ici. Il s'est dépouillé de ses atouts glorieux, divins, pour prendre une forme de serviteur. Alors, dépouiller lui-même, serviteur, humilier lui-même, jusqu'à la mort même de la croix. Ces mots-là ne me semblent pas des choses réjouissantes. Il me semble que si on me dit que c'est ça ton plan de vie, puis on va dire, hey, ça, on va fêter ça pendant 2000 ans comme un objet de réjouissance, j'ai quelque chose qui se choque entre les deux idées. La perspective de Jésus-Christ est une perspective de sortir d'une situation glorieuse, toute puissante, là où il y a le contrôle sur tous les éléments, à une position limitée d'un homme dont le dépouillement, la forme de serviteur, s'humilier lui-même, ce n'est pas des sons qui sonnent avec réjouissance, mais beaucoup plus avec souffrance. Ce qu'il faut penser ici, c'est que la source de notre bonheur, la source qui peut faire notre bonheur aujourd'hui, prend place dans la perspective de la douleur d'un autre. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris une perspective de dire, je vais vous servir, je vais me sacrifier, dans une perspective donc de souffrance, lui, nous amène une perspective de réjouissance aujourd'hui, si toutefois on connaît cette relation-là avec Jésus-Christ. Jésus a dû prendre des moyens pour s'incarner en homme. Il a dû prendre des dispositions. Je ne pense pas que Jésus a dû se préparer mentalement parce qu'il est Dieu, mais dans la perspective qu'on peut voir, c'est un peu cette image-là que je voulais vous faire voir. Dieu a dû se préparer à venir souffrir et servir. Je ne sais pas si vous avez déjà médité sur ce sujet-là, mais si vous étiez dans une position de toute puissance pour dominer sur les éléments, il y a quelque chose que vous avez que vous êtes habitué à régner, vous êtes habitué d'être le Dieu de gloire, vous êtes habitué d'être au-dessus des choses et à être servi plutôt que de servir. Vous n'êtes surtout pas habitué de vous soumettre. Hein? Le texte nous dit qu'il s'est rendu obéissant. Il a dû apprendre l'obéissance. Il a dû acquérir quelque chose. Pas que Dieu en tant que tel a besoin d'apprendre quelque chose, mais sous sa forme humaine, il a dû apprendre à devenir la créature soumise aux éléments. Maintenant, de quelle façon? Peut-être que vous avez réfléchi à ça déjà, peut-être que vous n'avez jamais réfléchi à cette idée-là, mais d'abord, il a dû se mettre en confiance avec des parents humains. Je ne pense pas que Jésus était conscient dès sa naissance de toute cette réalité-là, mais quand il est arrivé sur terre, il avait cette condition-là de dire, je vais devoir me soumettre à des parents pécheurs, à des parents imparfaits. Comment vont-ils savoir le mieux pour moi le temps que je vais être un enfant, jusqu'à ce que je devienne un âge de maturité où moi-même je vais prendre mes propres voies? Jésus arrive dans une perspective où il doit se dépendre de gens imparfaits, rebelles à son père. Il va être obligé de se limiter au côté physique. Il ne devient plus omniprésent. Il n'est pas capable d'être partout à la fois lorsqu'il est dans un corps humain. Jésus se limite à la présence même. Son rayon d'action devient là où son corps est. Dans la perspective divine, c'est quelque chose à apprendre. La fatigue, la faim, vivre les incompréhensions des gens, le rejet, vivre les limites que son corps va lui imposer. Puis en plus, il est conscient de la souffrance à venir. Il va être conscient, quand il vient avec la perspective de sa mission. Il ne vient pas avec une perspective, il va avoir une belle vie. Il vient avec une perspective qui a une mission, c'est celle de mourir et de souffrir. On a tous vécu, j'en ai vécu, et chacun d'entre nous a vécu différents types de souffrances. Hein, depuis qu'on est tout petit, il y a des souffrances qu'on n'est pas conscient. J'ai des bébés, j'ai des enfants très, très jeunes, et ils ne sont pas conscients de la valeur ou de l'importance ou de ce que c'est souffrir versus pas être bien. Ils n'en comprennent pas grand-chose. Mais dès qu'on est petit, on commence à vivre de la souffrance. On commence à devoir juste ne serait-ce que partager nos affaires avec notre frère, notre soeur, les maladies, la mauvaise santé, les gens qui nous frappent. Peut-être que des gens, vous avez souffert des choses plus graves, des abus de toutes sortes, des trahisons, les premières peines d'amour, la violence, la maladie, le deuil. On vit tous des souffrances à différents stades de notre vie. Mais ces souffrances-là, vous ne les connaissiez pas d'avance. On s'attend tous à souffrir. À un certain âge, on finit par comprendre qu'on va souffrir un peu. Il va arriver des choses qui vont nous faire souffrir un jour. Mais on ne vit pas avec la perspective que dans l'année prochaine, il va y avoir tel événement dans notre vie qui va nous causer peut-être une des plus grandes peines de notre vie ou une des plus grandes souffrances de notre vie. On n'a pas cette perspective-là dans le futur. Jésus-Christ avait cette perspective-là. En fait, peut-être même que si vous saviez que dans, je sais pas, dans telle situation, vous avez pris telle décision et ça vous menait à un tas de souffrances parce que vous avez choisi telle ou telle route. Et on ne parle pas nécessairement de péché ici, mais de rencontres ou de choix de carrière ou de choix même aussi souffrantes que peut-être dans votre le fait du mariage. Le mariage n'est pas toujours une occasion de réjouissance. Au global, j'espère pour vous, mais il y a des moments où on se marie avec la perspective qu'on va être heureux tout le temps. Il y a personne qui dit dans le mariage, je me marie puis je sais que je vais être malheureux. Je sais que je vais souffrir. Je sais que je vais devoir pardonner. Je sais que je vais devoir prendre un peu moins de place, mais en donner plus à l'autre. Cette perspective de souffrance-là n'est pas là quand on se marie. Le jour de notre mariage, on n'y pense pas à cette chose-là. Et je ne suis pas en train de faire un témoignage personnel, je suis en train de dire ici, je fais un clin d'œil parce que ma femme m'entend en haut. Mais si vous aviez su certaines de vos souffrances dans tous les événements de votre vie, vous auriez peut-être pris des choix différents, peut-être que vous auriez choisi de vous isoler plutôt que de vous mettre en relation avec certains amis qui vous ont trahi. Au lieu de faire face et de dire, OK, je sais que je vais souffrir, mais je vais prendre ce chemin-là quand même. Peut-être que vous auriez pris des chemins différents si vous aviez su à l'avance. Si vous aviez eu cette perspective-là, peut-être que vous auriez fait des choix différents qui vous auraient amené à moins de souffrance. L'être humain, par nature, cherche ce qui lui plaît et ce qui lui fait du bien. Et d'ailleurs, je pense que c'est une chose que Dieu a placée en nous. Ce désir-là d'harmonie en nous, je pense que Dieu nous l'a placé pour que le péché nous rende insatisfaits et nous aide à nous tourner vers lui. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. C'est juste, on n'a pas la perspective, comme Jésus-Christ, de la souffrance à venir. Mais pourtant, Jésus a choisi ce chemin-là, malgré cette perspective-là. Jésus s'est porté volontaire pour souffrir. Jésus s'est porté volontaire pour mourir pour nous. Jésus a payer le prix de devenir un serviteur. Il s'est mis dans la peau d'un serviteur et non pas la peau de celui qui est servi. Quand je vous dis qu'il avait déjà la perspective, oui, de toute éternité, il avait la perspective, mais même lorsque dans son ministère, il a la perspective qu'il va souffrir. Quand il va choisir les 12 qui vont suivre avec lui, il sait déjà qui va le trahir. Il sait déjà qui va lui faire de la peine. Pierre va le renier. Les autres vont lui causer du trouble. Il va devoir user de beaucoup de patience avec ces gars-là qui vont être peut-être pas pour Jésus, mais pour moi, ils auraient été probablement un fardeau à certains moments où on dirait qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Mais quand il choisit Judas, je ne sais pas dans quelle pensée il était, dans quelle disposition il était, mais il savait qu'en choisissant Judas, il choisissait un ami qui allait le trahir. Parce que Jésus l'a appelé. Il l'a pas appelé traître, en fait. Il l'a appelé un ami quand il l'a trahi. Il l'a appelé un ami et Jésus n'est pas un menteur. Donc, Jésus s'est lié d'amitié avec quelqu'un qui savait clairement qu'il allait le trahir. Et pourtant, il a gardé cette relation-là. Il ne s'est pas rendu invulnérable à Judas. Il l'a traité de la même façon qu'il a traité les 11 autres. Il a aimé les 12 apôtres. Il les a conduits, il les a investis de la mission comme il a investi Judas de la même mission que les autres. Il les a envoyés faire des miracles, il a envoyé faire des guérisons. Comme toutes les autres, il a traité de la même façon Judas que les autres. Il savait que Judas le trahirait, mais pourtant il a choisi quand même de garder cette relation-là au même niveau qu'avec celle des autres. Maintenant, Jésus a quitté son confort pour venir souffrir pour des gens qui ne le méritaient pas. Il y a un autre texte qui nous parle à quel point il est passé par un chemin, le chemin, on dit low profile, mais je n'ai jamais trouvé d'expression équivalente en français, mais il a choisi la discrétion quand il est venu sur cette terre, et c'était déjà prévu. Hein? Quand je dis qu'il avait la perspective, c'est ça aussi. Ésaïe 53, versets 1 à 3, je vais le lire tout de suite, si vous tournez, j'espère que vous tournez rapidement. Ésaïe 53, les versets 1 à 3, ça nous parle à l'avance de Jésus-Christ, on le sait maintenant. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Voici, c'était le plan de match de Jésus. Quand Jésus allait venir, il savait à quoi s'attendre, et il l'a choisi quand même. Ce n'est pas l'image qu'on se fait de ce que devrait être Dieu devant nos yeux. Ce n'est pas l'image du Noël romantique que nous, on a. Hein? Cette belle idée même qu'on a tellement perverti cette image-là aujourd'hui avec la crèche. On ose mettre la crèche avec de la neige peut-être et avec peut-être même un Père Noël à côté. Puis c'est tout un beau moment, mais c'est un moment de souffrance. C'est un moment où Joseph et Marie s'en vont, obligés par le pouvoir imposé de Rome à aller faire un recensement, pas trouver de place pour vivre. Et ce roi-là décide d'arriver sur cette terre de cette façon-là. Ce n'est pas la vision romantique qu'on a de Noël, la vision réjouissante. « Wow, le petit Jésus est venu dans la crèche, wow, c'est fantastique. » Mais ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas l'image que Jésus en avait. Et je ne dis pas que Jésus le faisait avec dépit. Jésus l'a fait avec joie, j'en suis persuadé. Le message de Noël aujourd'hui, c'est donner des cadeaux, recevoir des cadeaux, se faire plaisir, avoir du bon temps. Pas tellement avec l'idée du sacrifice personnel, pas tellement avec l'idée de se porter volontaire pour servir les autres. Hein? Le Noël ne rime pas avec souffrance, celui qu'on veut vous vendre en tout cas. La seule souffrance qu'on peut déduire de Noël, ou une des seules souffrances qui peut arriver pour certains, c'est les comptes en souffrance qui vont arriver en janvier ou en février prochain. Peut-être que je vous laisse le temps d'y penser. Il y a une autre souffrance qui vient, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Il y a une autre souffrance qui peut venir, c'est les gens qui sont laissés. Il y a des gens pour qui Noël, c'est souffrant aussi, parce qu'ils vivent la solitude, ils vivent d'autres souffrances reliées à l'absence du vrai esprit à ceux qui ont vend Noël comme un moment de réjouissance, un moment de bonheur, et qui peuvent pas l'avoir ce moment-là. Parce que les attentes qu'on leur a dit, Noël devrait rimer avec famille, réjouissance, temps où on achète et on donne des cadeaux. Et des gens pour qui cette souffrance-là existe, parce que justement les attentes de nos côtés sont peut-être pas les bonnes. Mais cette souffrance-là vient peut-être aussi de l'absence de gens qui ont le vrai esprit de sacrifice et de service pour prendre soin de ces gens-là dans ces moments-là. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin, encore une fois. Quand je dis Noël ne rime pas avec souffrance, mais dans le sens de souffrance volontaire, pas souffrance que l'on subit. C'est pas la souffrance qu'on subit que je veux parler ce matin, mais cette souffrance-là, la perspective de souffrir parce qu'on se donne, souffrir parce qu'on sert, souffrir parce qu'on veut se sacrifier. C'est de cette souffrance-là que je parle ce matin. Pas celle que l'on subit, mais celle que l'on s'impose à nous-mêmes pour rendre les autres heureux. Alors maintenant, la fête de Noël, on veut nous la vendre comme une fête de l'amour. On veut nous vendre ça comme une fête de l'amour, mais je vous dirais, oui, c'est vrai. C'est la fête de l'amour, Noël. Noël est une représentation de l'amour, mais pas celui qu'on regarde à la publicité de la télévision. C'est pas de cet amour-là qu'il est question dans le Noël que Jésus avait pensé pour nous. Le Noël, l'amour qui est présenté ici, c'est l'amour de Dieu qui s'est fait homme, qui a pris la place d'un homme pour venir s'offrir pour nous. C'est de cet amour-là que Noël est question. Pas l'amour que l'on a pour les uns pour les autres. Ce qui devrait être un résultat, l'amour que l'on a pour les uns pour les autres, devrait être le résultat de l'amour que Dieu nous a porté. Mais ici, le premier sens de l'amour de Noël, qu'on peut trouver dans Noël, c'est le Dieu Tout-Puissant qui s'est fait petit enfant pour venir souffrir, dans la perspective de souffrir pour nous. Maintenant, souffrir et se porter volontaire et se sacrifier, se donner, toutes ces choses-là ne sont pas très populaires. Ce n'est pas quelque chose qui... ce n'est pas un message à la mode, peut-être dans certaines églises, mais dans le message de tout ce qu'on entend dans la semaine, ce n'est pas un message très populaire. En fait, c'est plutôt impopulaire. Il faut que tu sois confortable, il faut que les autres soient à ton service. Mais pourtant, il y a un appel dans le texte de ce matin, même si j'ai décrit jusqu'à maintenant plutôt la présence, la place que Jésus prenait dans cette souffrance-là, il y a un appel pour nous. Hein, peut-être que tu dis, Sébastien, c'est le fun ce que tu dis, mais ça concerne Dieu, ça ne me concerne pas beaucoup. Pourtant, le texte de ce matin a un appel à souffrance, contient un appel à nous-mêmes de devenir des serviteurs souffrants. Si je retourne au verset 5, qui est le début de l'exhortation sur ce sujet-là, ça dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et là, on parle de cette idée-là de pas se servir nous-mêmes, pas chercher à être servi, mais à chercher l'intérêt de l'autre. Le texte nous appelle à nous prémunir des sentiments ou des prédispositions que Jésus avait en lui-même, celles de s'offrir et de servir, de placer les autres avant les intérêts des autres, avant nos propres intérêts. Ce que Jésus-Christ a fait, il nous demande ici de le faire aussi. Parce qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. On ne peut pas se rendre satisfait de tous nos moindres désirs et servir les intérêts de toutes les autres en même temps. C'est impossible. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est trouver notre intérêt dans le service des autres. Trouver notre joie dans le service des autres. Et là, nous serons satisfaits et nous pourrons satisfaire les autres. Ce que je me posais comme question quand j'ai préparé ça, et que c'est quelque chose sur lequel je réfléchis à l'occasion, c'est où Jésus a trouvé autant de motivation pour faire ce geste-là? Où un Dieu qui voulait nous servir a trouvé toute la motivation en disant, « Bon, moi, quand je regarde une année, puis je dis, il va avoir ça à faire, et là, je vois déjà les obstacles, et je suis un optimiste, mais malgré tout, je suis capable de voir les obstacles, et je me dis, est-ce que je veux vraiment, vraiment passer par ce chemin-là? » Et où Jésus a trouvé cette énergie-là pour dire, « Hey, le chemin va être vraiment difficile. » Puis, en fait, le facile ne sera pas vers la fin. Plus ça va aller, plus ça va être difficile, ce chemin-là. Et où a-t-il trouvé sa propre motivation, son propre intérêt dans ça? Hébreux chapitre 12, les versets 1 à 3. Je vais m'y rendre rapidement, si je ne veux pas dépasser mon temps. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. La joie que Jésus-Christ portait en lui en faisant cette mission-là, elle était future. Ce n'est pas le moment présent qui dit, « Oh, c'est plaisant, je vais aller me faire clouer sur une croix, je vais aller souffrir avec des humains qui vont me rejeter, je vais me limiter à mon corps d'homme. » Ce n'est pas cette perspective de souffrance, ce n'est pas du masochisme que Jésus a fait là. Parfois, on pourrait penser que Jésus était masochiste, c'est-à-dire qu'il désirait cette douleur-là. Ce n'est pas du tout la souffrance qu'il a désirée. Il a juste passé par-dessus, il a juste regardé en haut de la butte, juste derrière la montagne, puis il a vu, derrière la montagne se trouve la joie. La joie d'accomplir le plan de Dieu, la joie de voir des âmes sauvées, d'avoir la mission accomplie et la gloire de Dieu remplie par cette grâce-là qui est offerte. Jésus, dans sa motivation, il avait la perspective éternelle, il avait une perspective à long terme. Nous, on regarde toujours au court terme. Il y a beaucoup de... Vous allez vous rendre compte, regardez juste en arrière, si vous regardez 10 ans, 5 ans, 20 ans en arrière, le rythme de vie dans lequel on vit de plus en plus au court terme. De plus en plus, on va vivre pour l'instant présent. Est-ce que je suis bien là maintenant où est-ce que je suis? Si ça ne vaut pas la peine maintenant, si ça ne me rapporte pas quelque chose maintenant, ce n'est pas intéressant. Mais la Bible, Jésus-Christ nous montre par exemple, les Écritures nous montrent que nous devons regarder un petit peu plus loin que cette butte-là, juste regarder derrière cette colline-là et regarder à ce qui nous est réservé dans le futur. Et là, on peut dire, ça c'était Jésus, c'était fantastique pour lui, c'est son plan à lui, c'est sa vie à lui. Mais Paul nous donne la même, et là, j'ai dû écourter vraiment cette section-là pour moi parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Énormément, celui de la perspective éternelle dans la souffrance. Et c'est là que je veux vous amener ce matin. Cette perspective que Jésus avait, Paul nous demande, nous implore de vivre de la même façon. Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 17 et 18, ça nous dit ceci. Et là, Paul, dans ce contexte-là, nous parle de toute la persécution qu'il vit pour Jésus-Christ. Là, tous les jours, ils sont mis à mort, ils vivent comme des condamnés à mort sur deux jambes. Ils vivent dans cette perspective-là tous les jours, la souffrance, leur corps qui dépérit. Et là, il nous dit ceci, dans toutes ces souffrances-là. Et si vous voulez avoir un portrait des souffrances de Paul, vous irez voir 2 Corinthiens chapitre 11. Et vous allez avoir une perspective de quand il va parler de ce texte-là, qu'est-ce qu'il a en tête. Et il va dire dans ce passage-là, 2 Corinthiens 4, 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » L'homme qui dit ça, « légères afflictions du moment, passagères », c'est un homme qui a été lapidé, qui a été battu de verge, qui a été jeté dehors des villes, qui a souffert de la nudité, qui a souffert de manque de nourriture, qui a souffert du rejet des Juifs, du rejet des païens, du mépris des églises. Et il va parler de légères afflictions du moment. Et il va dire « passager ». Nous, quand on souffre, on ne voit pas ça comme passager. On a l'impression que c'est déjà trop long. Hein, on se cogne juste un orteil sur le bord d'une table, et c'est déjà trop long la douleur qu'on a sur l'orteil. Ici, on parle d'une perspective à long terme, de s'équiper avec une vue à long terme, de dire, ceci est passager. Les 30 prochaines années, les 40 prochaines années de ma vie, c'est passager si je le compare à l'éternité. Et c'est cette perspective-là de souffrance que nous devons, avec laquelle nous devons nous équiper. Alors, aujourd'hui, on n'entend pas ça souvent. Hein? On entend plutôt le message « achetez maintenant, payez plus tard ». Les Écritures nous disent le contraire. « Payez maintenant, recevez plus tard ». Et c'est dans cette période-là de l'année ici qu'on entend le message tout à fait contraire, que je veux juste détonner un peu ce matin. Et de vous dire que dans cette perspective de souffrance-là, parce qu'on vit tous des choses difficiles à plus ou moins grande échelle, et on ne sait pas ce qui nous arrivera demain, on ne sait pas ce qui nous arrivera ce soir, dans cette perspective-là. Mais Jésus-Christ nous dit, payez le prix maintenant, récoltez plus tard. Et peut-être que ça semble sombre, mais pour moi, c'est une perspective incroyable. De mesurer qu'aujourd'hui, si je paye le prix, j'ai un poids éternel de gloire qui m'attend. J'aime mieux avoir cette vision-là que d'avoir des satisfactions pour les 30 ou 40 prochaines années de ma vie, même si je devais souffrir constamment. Et je ne dis pas que j'aime ça quand je suis dedans tout le temps, mais quand je m'arrête et je regarde la perspective, je me réjouis de voir si je prends les bonnes décisions, ce moment-là ne sera pas fait en vain. Et c'est aussi une autre explication qui nous permet d'accepter la souffrance, c'est que cette souffrance-là, elle n'est pas injuste. Elle est peut-être injuste au moment où on la vit. Quand on est trahi par un ami, ce n'est pas juste. Quand les gens nous blessent, ce n'est pas juste. Par contre, si on prend la perspective éternelle, même si ce n'est pas justifié cette souffrance-là au moment présent, je peux comprendre son sens dans l'éternité. D'abord, je vais grandir si je prends la bonne décision, mais aussi toute la récompense qui va se rattacher à ma réaction, à mon caractère qui va avoir grandi éternellement. Toute une perspective différente sur la souffrance. On n'a plus la perspective de ça se passe maintenant tout de suite, mais il y a une raison pour ça. Comme Jésus l'a vu à long terme, il a vu la joie qui était réservée après la croix, nous devons regarder à la joie qui vient après notre vie actuelle. J'aimerais conclure en résumant un petit peu la pensée que j'ai eue depuis ce matin. Effectivement, Noël, c'est la fête de l'amour. Effectivement, pas comme on nous le dit, mais Noël, c'est effectivement la fête de l'amour, mais l'amour d'un Dieu serviteur qui est venu servir la créature rebelle. En 2011, parce qu'on s'en vient vraiment proche de là, en 2011 et même les années qui vont suivre, les dernières années jusqu'à la fin de vos jours, vous serez appelés à souffrir. Vous serez appelés à vivre des trucs déplaisants, mais même jusqu'à des grandes souffrances, des trahisons, des blessures des amis, des blessures de vos proches, la maladie, souffrir peut-être même pour l'Évangile si vous allez jusqu'au bout du plan que Dieu a pour vous. On ne sait pas ce que Dieu en réserve. Mais je vous invite ce matin à prendre exemple sur Jésus-Christ. Prenez exemple sur Jésus-Christ. Prenez exemple sur Paul, qui a souffert aussi pour l'Évangile. Prenez courage. Jésus l'a fait, il l'a dit. Il dit, je l'ai vécu. Une des raisons que je l'ai vécu dans Hébreux 12, c'est pour que vous ne soyez pas découragés. Prenez exemple sur lui-même. Armez-vous de la perspective éternelle plutôt que de la perspective temporaire, passagère. Souffrez, mais pas à n'importe quel prix. Jetez-vous pas dans la douleur. Allez pas faire des choses pour souffrir. Par contre, armez-vous avec la perspective que si vous accomplissez le plan de Dieu, vous pourrez souffrir et vous allez souffrir. Mais tout ceci doit être fait en accord avec le plan de Dieu et dans cette perspective éternelle. Maintenant, le dernier point, comme je dis, je ne connais pas tous les gens qui sont ici ce matin. Peut-être que tout ce que je dis là, ça semble complètement absurde, incohérent. Ça n'a aucun sens, ce que je dis depuis ce matin. L'idée de souffrir pour mon bien, l'idée de souffrir dans le but éternel. Peut-être que ce matin, vous ne connaissez pas encore, vous ne saisissez pas cette réalité-là parce que vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Vous ne connaissez pas cette personne-là qui peut amener cette joie-là ou cette perspective-là éternelle. Ce que je vous invite à faire, c'est de reconnaître cet amour-là. Je vous dis pas, ce matin, comprenez tout ça, saisissez-le, puis demain matin, essayez de changer par vous-même, par vos efforts. Mais ce que je vous invite à faire, reconnaissez le geste d'amour que Jésus a posé pour vous. Faites juste absorber le fait que Jésus-Christ a véritablement voulu vous aimer en venant ici sur cette terre. Prenez les Écritures, allez revoir cette histoire-là d'amour que Jésus a écrit pour vous, a préparé pour vous. Puis je vous invite, si vous avez déjà entendu parler, mais que vous n'êtes pas nécessairement rendu au point, vous n'avez pas encore pris cette décision-là pour Jésus-Christ de dire, hey, oui, je veux connaître cet homme-là qui m'a aimé, ce Dieu-là qui s'est présenté à moi pour me montrer son amour et manifester son amour pour que j'aie la vie éternelle, bien, considérez-le. Considérez-le, cet amour-là. Considérez l'amour que Dieu vous a proposé en Jésus-Christ. Prenez cette occasion-là. On fait des bilans en fin d'année, en début d'année. Considérez cette option-là. L'option d'accepter l'amour que Dieu vous offre en Jésus-Christ. Je prie. Seigneur Dieu, on veut encore une fois, Jésus, te remercier, te louer parce que tu as payé le prix de la croix. Tu es venu jusqu'à nous et tu n'as pas attendu qu'on aille vers toi. Tu as pris les dispositions pour qu'on puisse être non seulement sauvés éternellement, mais être en ta présence, remplis de joie et de ta gloire éternellement. Je te prie dans cette perspective-là de nous faire connaître, de nous rappeler ça si on connaît déjà cette vérité-là, sinon de la faire connaître à notre cœur. Qu'on puisse vivre ces moments-là avec ta perspective et ce que tu avais en tête pour nous. Amen. Merci.
Sébastien.
Oups. Côté.